France Inter. Le 18-20, Pierre Veil.
Et voici le téléphone sonne jusqu'à 20h. La révolution numérique est-elle une chance pour la jeune génération ou une sombre mécanique à fabriquer des crétins digitaux? C'est l'objet du livre de Michel Desmurget paru au Seuil à la rentrée, La fabrique du crétin digital, les dangers des écrans pour nos enfants aux éditions du Seuil. Michel Desmurget est docteur en neurosciences, directeur de recherche à l'INSERM. Il est avec nous ce soir, prêt à répondre à toutes vos questions. Les effets des écrans sur le développement de l'enfant et de l'adolescence la concernent des secteurs fondamentaux, la santé, le comportement, l'intelligence, la réussite scolaire. Or, c'est vrai, on entend très souvent dans la bouche de certains spécialistes des discours enthousiastes sur cette révolution technologique, les smartphones, les tablettes, les ordinateurs en tout genre, toujours plus performants. Discours boiteux, désinvolte, incompétent, dit Michel Desmurget. Pour lui, le constat est clair, il écrit dans son livre « Les écrans sont un désastre ». Alors avec vous, au téléphone sonne, au 01 45 24 7000 et sur le site de l'émission, on ouvre ce lourd dossier.
Le téléphone sonne, 01 45 24 7000.
Michel Desmurget, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous et prêt à répondre à toutes les questions des auditeurs sur ces dangers des écrans pour nos enfants. Clément nous appelle, il est avec nous en ligne. Bonsoir Clément.
Oui, bonsoir.
Michel Desmurget vous écoute.
Alors, ma question, elle était quels sont les impacts qu'ont les écrans par rapport aux jeunes enfants, en fait, parce que j'ai une nièce et un neveu qui sont très connectés, très téléphone portable, iPhone, ce genre de choses. Et étant futur papa bientôt, je voudrais savoir en quoi cela a un impact sur le développement du cerveau chez l'enfant.
Et quand vous parlez de vos nièces, neveux, racontez-moi, ils passent combien de temps sur leur tablette, leur smartphone? Vous avez observé cela?
C'est en fait assez régulier, c'est des petites tranches assez régulières dans les repas de famille, ce genre de choses. On voit qu'ils sont assez attachés à ça.
Quel âge?
Mon neveu, 7 ans et ma nièce, 5-6 ans.
Michel Desmurget, que répondez-vous à Clément, qui va être papa bientôt, si j'ai bien compris, et qui s'inquiète pour l'avenir de ses enfants par rapport au numérique?
D'abord, bonjour Clément. Le problème des écrans, alors ça dépend ce qu'on appelle jeunes enfants, on va dire que c'est jusqu'à 5-6 ans. Dans ces eaux-là, le problème c'est que les écrans ne montrent aucun effet, l'usage des écrans ne montre aucun effet positif sur le développement de l'enfant. Et toutes les études, il n'y a pas de détriment à ne pas en avoir. Par contre, toutes les études montrent qu'il y a des détriments effectivement assez lourds à l'usage des écrans pour des usages qui sont pas forcément stratosphériques. Dès un quart d'heure, une demi-heure par jour, on observe des effets négatifs. Alors ces effets, ils sont nombreux, je sais pas si on peut les lister tous, mais il y a des effets sur le langage, sur le développement du langage, il y a des effets sur le développement de la concentration et de l'attention. Il y a des effets plus tard sur les résultats scolaires, il y a des effets sur le sommeil, il y a des effets sur la santé, c'est un facteur important d'obésité. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ces effets, non seulement ils sont bien documentés en eux-mêmes, mais en plus on comprend assez bien maintenant les mécanismes causaux qui sont derrière. C'est-à-dire que pour le langage, par exemple, on s'aperçoit que il y a une chose qu'il faut dire, puisque Clément parle du cerveau, une chose qu'il faut dire, c'est que le cerveau, certes, il s'adapte aux écrans, mais il n'a pas été conçu pour se construire dans un monde numérique comme ça. Et on a beau dire que les enfants sont jeunes, certes, mais leur cerveau, il est encore ancien. Et c'est encore un cerveau qui a été façonné pour un monde qui n'est pas un monde numérique. Et ce cerveau, il a besoin d'un certain nombre de choses pour bien se développer. Il a besoin d'humains. L'une des principales caractéristiques du développement, c'est que le cerveau a besoin d'humains. C'est-à-dire qu'un enfant va apprendre beaucoup plus facilement, beaucoup plus intensément, s'il a un humain en face de lui, plutôt qu'une vidéo de cet humain ou une autre vidéo. Et les écrans prennent énormément de temps sur l'humain. Par exemple, on peut prendre l'exemple, c'est très bien documenté pour le langage, c'est-à-dire que un jeune enfant, s'il regarde la table, vous êtes en face de lui, vous lui montrez la table et vous lui dites table, vous lui dites une ou deux fois, il va apprendre le mot table. Avant 2-3 ans, toutes les études montrent qu'il va rien apprendre des programmes soi-disant éducatifs du langage. Ensuite, il va apprendre, effectivement, il va pouvoir apprendre un certain nombre de mots épars, mais ça va prendre énormément de répétitions, c'est des dizaines de répétitions avec ce genre de programmes soi-disant éducatifs. Donc il y a le problème de l'humain, il y a aussi le problème de la concentration. Le cerveau, il n'est pas fait pour, il n'est pas fait pour subir un bombardement sensoriel constant, c'est délétère pour lui. On le sait depuis longtemps, c'est-à-dire que les enfants, ça avait été montré dans les crèches, les enfants qui sont élevés dans des environnements qui sont des environnements extrêmement sollicitants au niveau sensoriel, avec beaucoup de bruit, avec beaucoup de sons, par exemple, sont des enfants qui plus tard ont des problèmes de développement, des problèmes notamment sur la concentration, l'hyperactivité. Et pour en être sûr, les chercheurs récemment, ils ont reproduit, c'est pour être sûr des mécanismes causaux, ils ont reproduit ces choses-là chez l'animal, par exemple. Alors, je sais pas, ils ont notamment chez le rongeur, on a élevé, par exemple, des rongeurs avec Bob l'éponge, la même intensité, à la même durée que celle avec laquelle on élève nos enfants, ou alors on les a mis dans des environnements où, par exemple, pendant une heure par jour, on leur faisait sentir des odeurs différentes versus une seule odeur, et on s'aperçoit que ces animaux qui sont élevés dans ce bombardement sensoriel constant, ils développent des problèmes de concentration. Et j'ai fini, il y a aussi, on a besoin, l'enfant, il a besoin de sommeil. À tous les âges, là, mais vraiment particulièrement l'enfant, et les écrans prennent sur le sommeil, même si on s'en rend pas forcément compte, notamment les choses qui l'excitent et qui font un peu peur, notamment le fait qu'il va se coucher plus tard, notamment la lumière qui a été mise par les écrans qui retarde la sécrétion de mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Donc même si vous couchez les enfants à la même heure, ils vont mettre plus de temps à s'endormir. Ils ont besoin d'activité physique. Tout ça, c'est des besoins fondamentaux du cerveau pour le développer. On comprend pas encore tous les mécanismes qui lient la maturation cérébrale, le développement, la mémorisation, l'activité physique, mais on observe qu'il y a un lien. Le cerveau, il est pas fait pour faire 50 choses à la fois. Donc voilà, il y a toute une matrice de choses qui font que ces choses-là sont pas adaptées, notamment pour les jeunes enfants.
Et que les parents doivent connaître et pour imposer une utilisation très contrôlée du numérique.
Alors, il s'agit pas de dire qu'il faut tout jeter du numérique, évidemment. Il s'agit de dire que quand vous mettez ces outils-là dans la main des enfants, des jeunes enfants ou des enfants plus grands, des ados notamment, c'est pas vers les usages potentiellement positifs qui se tournent, mais c'est vers les usages récréatifs dont on sait maintenant extrêmement clairement que ces usages sont délétères, extrêmement délétères. Il s'agit pas de culpabiliser les parents ou n'importe quoi, il s'agit pas d'imposer, il s'agit de dire aux parents ce qu'il en est, et ensuite quand les parents ont l'information, après ils s'organisent un peu comme ils veulent, et voilà. Mais pour répondre à la question de Clément, le mieux avant 6 ans, le mieux c'est le moins. c'est une formule de l'OMS qui a dit que jusqu'à 5 ans c'était une heure maximum, mais moins c'est mieux. Et effectivement, le moins c'est mieux, et le mieux c'est zéro pour les très jeunes enfants. Pour une autre raison, c'est que plus ils vont être des consommateurs précoces, plus ils vont avoir tendance à être des usagers importants plus tard, plus ils vont avoir tendance à être des consommateurs importants, à avoir de lourdes consommations à l'adolescence.
Alors les auditeurs réagissent à ce que vous dites en direct sur l'antenne. Faut-il comprendre à travers vos propos, Michel Desmurgeix, que plus on regarde un écran, plus le quotient intellectuel diminue? Bref, est-ce qu'on devient plus idiot à force de regarder des écrans numériques? Je cite ce courriel de Pierre.
Oui, alors ça aussi, ça a été une polémique. Le QI dépend de tout un tas de choses. Il dépend de l'éducation, il dépend de la santé, il dépend du système scolaire, il dépend de la nourriture que vous allez donner à l'enfant, il dépend de... Voilà. Donc, si on prend les pays pour lesquels ces facteurs sont stables depuis un certain nombre d'années, voire de décennies, on s'aperçoit qu'il y a une tendance à la baisse du QI. En France, notamment dans les pays nordiques, mais aussi en France, en Angleterre, en Hollande, on s'aperçoit. Alors les écrans ne sont pas complètement responsables à eux tout seuls, sans doute, de cette baisse-là, il n'y a pas de problème. Cela étant dit, dire que les écrans ne sont pas responsables et qu'ils n'ont pas d'impact sur le QI, la réponse est non. Les écrans, il y a plein d'études qui montrent, alors pour les jeux vidéo, pour la télévision, des études de suivi, c'est-à-dire que vous prenez des enfants, et puis vous les suivez pendant quelques années, et vous mesurez leur quotient intellectuel, par exemple, leur QI, et donc vous apercevez que quand le temps d'écran récréatif, encore une fois, jeux vidéo, télévision, autre chose, augmente, le QI descend. Et quand le pour ceux qui vont avoir une diminution du temps écran, il remonte. Et là encore, les causalités sont bien établies. Je veux dire, le QI, il a besoin, ça sort pas de n'importe où. Le QI, c'est quelque chose d'un peu composite, mais dans le QI, il y a une bonne part de ce qui nous fait humain, notre intelligence humaine, elle est liée notamment au langage, elle est liée à la concentration, elle est liée à nos capacités de mémorisation, etc. Et tout ça, c'est des choses qui sont impactées par les écrans. Ce qui est surprenant, c'est pas que ça ait un impact négatif sur le QI. Ce qui serait miraculeux, c'est que ça n'en est pas.
Claude est à Blois, écoute, le téléphone sonne et veut intervenir. Claude, bonsoir.
Oui, bonsoir messieurs. Comme les écrans sont à ce point nocifs pour la santé des jeunes, pourquoi l'éducation nationale en développe-t-elle l'usage dans ses cours, dans toutes les matières et à outrance? j'adhère tout à fait au terme de crétin digital. Je viens de prendre ma retraite de l'éducation nationale et je peux témoigner de ce que l'éducation nationale en rajoute une nouvelle couche de 30 heures par semaine, jusqu'à 30 heures par semaine.
Et vous aviez le sentiment, en tant qu'enseignant, que oui. Cette présence du numérique, des ordinateurs, ça n'apporte pas grand-chose, ça n'est pas un plus dans l'éducation pour la
non, rien,
des
rien,
enfants.
Parce que tout est dans le raisonnement, tout est dans le verbe, tout est dans le discours, et les enfants ont perdu l'habitude de l'orthographe, de la belle écriture et de tout cet aspect verbal du cours.
Michel Desmurgeais.
Alors je crois que le constat de Claude a raison, c'est-à-dire quand on prend toutes les études de grande ampleur, notamment les études PISA, vous savez qui sont des études de comparaison internationale, on s'aperçoit que ce sont les pays qui ont le plus investi dans le numérique, qui ont vu leurs élèves le moins progresser ou le plus régresser, ça dépend dans quel sens on le dit. Toutes les études de grande ampleur montrent que quand vous introduisez des écrans dans le système scolaire, ça a un impact négatif sur la réussite des élèves et sur leur performance scolaire. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que un écran tout seul, c'est mieux que rien. Il vaut mieux mettre un enfant devant un écran que de le mettre dans un placard. Il n'y a pas de problème. Un écran et un enseignant qualifié, l'enseignant qualifié aura toujours des performances qui sont infiniment supérieures à celles des écrans. On peut en donner un exemple. Il y a quelques années, le département de l'éducation américain a voulu tester tout un tas de logiciels éducatifs, de mathématiques et d'anglais, puisque c'était aux États-Unis. Et donc, ils se sont aperçus que ça n'avait pas d'effet. Ce qui est une bonne nouvelle, parce que les études PISA, notamment, montrent que c'est un effet négatif. Et puis après, ils ont testé ce que valait 50 heures de formation d'un enseignant. Et 50 heures de formation d'un enseignant, c'est 20 points de percentile. C'est-à-dire que si vous avez une classe de 100, votre enfant il est 50e et que vous formez son enseignant, il va passer 29e selon ses études, et avec les écrans ça bougera pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière la numérisation et ce que je voudrais dire, c'est que, comme le dit Claude, c'est un enseignant qualifié plus un écran, même si parfois de façon subjective on a l'impression que c'est mieux, les résultats montrent que c'est quasiment la même chose. Donc ce qui fait le cœur d'un système éducatif, et là encore tout le monde est d'accord, et la dernière étude PISA vient de le montrer notamment, ce qui fait le cœur et la qualité du système éducatif, c'est la qualité des enseignants pour leur recrutement et pour leur formation. Mais maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que en France notamment, mais dans un certain nombre de pays, on a du mal à les recruter, ces enseignants, parce que ça coûte cher, parce que souvent il y a plus de postes ouverts que d'enseignants, et la numérisation du système scolaire, c'est sans doute un moyen de pallier à ces problèmes de recrutement. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que on nous explique tout le temps que ça a un effet positif potentiellement sur les inégalités sociales. C'est pas vrai. Les études disponibles montrent que plus vous introduisez les écrans, plus vous introduisez des inégalités sociales, plus vous les creusez, parce qu'il y a ceux qui vont avoir à la maison un support humain et un support financier pour leur permettre d'avoir un peu d'humain, et puis il y a les autres.
Les courriels, Martine dans l'Isère, elle nous a écrit « À Noël, mes deux ados m'ont demandé un smartphone. J'ai fini par craquer, j'en aurais offert, n'est-ce pas ? Est-ce que le temps passé sur leur portable doit être déduit de leur temps passé devant leur ordinateur ? Bref, comment faire en tant que parent ?»
Oula.
Oui, c'est vrai, parce que vous dénoncez les effets du numérique ce soir. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil précis aux parents qui n'ont pas résisté, qui ont offert des smartphones, et ils seront encore des milliers et des milliers à le faire, vous le savez bien.
Oui, mais alors ma première compétence, c'est de dire aux parents ce que ça fait, après leur dire comment faire, c'est pas ma compétence de chercheur, mais il y a un certain nombre de pistes. Les pistes qu'on peut trouver dans la recherche, c'est déjà poser des règles. C'est-à-dire, avant de poser des règles, il faut en discuter avec l'enfant ou avec l'ado, parce que les études montrent que si vous imposez ça avec la casquette de Staline, ça va pas marcher. Oui. Ou ça va très mal marcher. Maintenant, si vous leur expliquez que vous mettez avec eux parce qu'il y a des difficultés scolaires, parce qu'il y a des problèmes de langage, parce qu'il y a des problèmes de développement, parce qu'il y a des problèmes de sommeil, ils sont capables de l'entendre. Et après, une fois qu'on s'est mis d'accord sur un certain nombre de règles, il y a des études qui montrent que le fait de mettre des règles, a priori toutes bêtes, entre guillemets, comme pas pendant qu'on est en train de manger, pas le soir après 20h ou pas dans ta chambre, pas le matin avant d'aller à l'école, etc. Ces règles simples permettent de réduire de façon assez importante, de moitié, dans les études auxquelles je fais. On était à 3 heures, puisque c'était des enfants qui avaient une douzaine d'années, on était à 3 heures par jour. On est passé à 1h30. Alors 1h30, c'est pas extraordinaire, mais c'est quand même beaucoup mieux de 3 heures. Et puis, il y a un truc qui est sympa pour les smartphones, je trouve, c'est, il y a des timers maintenant, des horloges qu'on peut mettre dessus. Alors, si on s'est mis d'accord sur un temps, on peut bloquer l'usage après ce temps, mais c'est pas nécessaire. Le fait de mettre une horloge, ça permet de prendre conscience du temps qu'on y passe. Et il y a une étude, moi, qui m'a marqué, où On demande à des ados combien de temps ils y passent. Mais on leur dit, attention, on a mis un sniffer, on a mis un timer, on sait combien de temps vous y passez. Et même en sachant ça, ils ont beaucoup de mal à apprécier. Et souvent, ils se trompent par un facteur 2. C'est-à-dire quand ils sont à 2, quand ils pensent être à 2 heures, ils sont à 4. Et cette prise de conscience, elle peut être importante pour les parents.
Lucille nous a écrit, en quoi un ado qui s'informe sur le site du monde.fr ou l'express.fr, il veut savoir ce qui se passe dans le monde, comprendre l'actualité, en quoi est-ce une mauvaise chose? Idem s'il va sur YouTube à la recherche d'une vidéo expliquant un dossier scientifique ou un fait historique sur lequel cet ado travaille.
Oh mon Dieu.
Michel Desmurgés.
Alors, pour être franc, voilà. Si l'usage exclusif qu'ils avaient des écrans, c'est d'aller consulter le site du Monde ou d'aller consulter des vidéos scientifiques qui peuvent les aider sur YouTube, mais mon Dieu, il n'y aurait pas de problème. La réalité, si les usages c'était ça, mais personne n'aurait rien à dire, évidemment. Le problème, c'est que c'est pas les usages qu'on trouve. Ce qu'il faut comprendre, c'est-à-dire, c'est que les ados,
ils sont. Quels sont les usages majoritaires?
Alors, les ados, ils sont à plus de 6h30 par jour.
Oui.
D'usage récréatif. Les usages majoritaires, c'est encore la vieille télévision, mais comme elle est partout dans votre poche et qu'elle vous suit, c'est les vidéos, c'est les films, c'est les séries, c'est Netflix, c'est l'usage majoritaire des ados. Ensuite, il y a les jeux vidéo, qui est l'usage second, si j'ose dire. Ensuite, il y a les réseaux sociaux. Alors, il y a une petite variabilité de genre, c'est-à-dire que les réseaux sociaux, c'est un peu plus les filles, un peu moins les garçons, qui sont un peu plus sur les jeux vidéo. Mais en gros, les trois usages, c'est ça. Et quand on parle de 6h30, on parle de 6h30 d'usage récréatif, en dehors des usages que vient de citer votre auditrice, qui sont des usages informatifs. C'est pas le cœur des usages. Alors, je sais bien que de temps en temps, il y a beaucoup de gens, de spécialistes, qui viennent se cacher derrière ces potentiels positifs du numérique. Évidemment qu'il y a ces potentiels positifs. Évidemment que c'est pas mauvais d'aller consulter un article sur le Monde. Cela étant dit, pour la vidéo YouTube, comment dire, il y a des problèmes de mémorisation. Et on sait que le cerveau, c'est un petit économiste, et quand il faut savoir ce qu'il mémorise, la mémorisation se fait la nuit. La question qui se pose, c'est est-ce que c'est important? Et la réponse qu'il y apporte, c'est, pour savoir si c'est important, c'est combien ça m'a coûté. Et pour lui, si ça lui a coûté cher, c'est important, il y a plus de chances qu'il mémorise. Et il y a beaucoup d'études, et pour lui, le coûté cher, c'est l'attention, c'est l'effort qu'il y a concentré. Donc vous aurez par exemple beaucoup plus d'effort si vous lisez la même information sur le site du Monde par écrit, et beaucoup plus de mémorisation que si vous la voyez à travers une vidéo scientifique. Sauf si c'est dans le cadre d'un projet pédagogique que vous avez déjà des choses derrière où ça va pouvoir vous aider.
Olivier dans l'Oise est avec nous. Merci de participer à l'émission, Olivier. Vous êtes sur l'antenne en direct et Michel Desmurgés vous écoute.
Merci, bonsoir messieurs et merci pour la qualité de vos émissions. Je voulais simplement savoir si la nocivité du temps de l'écran dépend de l'écran lui-même, c'est-à-dire est-ce qu'une heure passée devant un ordinateur sera une heure ou deux heures ou trois heures, le temps équivalent sera aussi nocif devant un ordinateur que devant un smartphone, que devant la télévision, que devant un portable?
Michel Desmurgés.
Alors globalement, la réponse est bonjour d'abord. Globalement, la réponse est oui. Donc il y a un certain nombre d'effets qui dépendent des contenus et donc du support. Mais il y a beaucoup d'effets qui sont, notamment chez les jeunes enfants, mais aussi plus tard, des effets qui sont indépendants du support. Il y a beaucoup d'études qui regardent le temps des écrans globalisés. Il y a beaucoup d'études qui montrent des effets négatifs indépendamment pour la télé, pour les jeux vidéo, pour le temps qui passe sur un ordinateur. Il y a des études amusantes sur les ordinateurs où on a donné des ordinateurs à des enfants qui n'en avaient pas. Notamment, vous savez pas si vous avez ce programme de One Laptop Per Child, un ordinateur par enfant dans les pays défavorisés, et y compris en Europe, notamment pour des enfants défavorisés. Et on s'est aperçu que ces enfants-là, on leur donnait ça en espérant que ça améliorerait les résultats scolaires, etc. Et on s'est aperçu que ça a des résultats, des impacts négatifs. Simplement, ces effets transversaux, ils sont liés au fait que, quel que soit l'écran, ça va impacter le sommeil. Quel que soit l'écran, ça va impacter le niveau des relations intrafamiliales. Quel que soit l'écran, ça va impacter tout un tas d'autres activités, notamment, qui sont des activités beaucoup plus nourrissantes pour le cerveau. Je parle encore une fois des écrans récréatifs et pas d'aller voir un article sur le site du Monde, etc. Donc voilà. Donc il y a des effets qui sont liés au contenu. Il vaut mieux regarder Arte que de regarder Hanouna. Il n'y a pas de problème. Personne vous dira le contraire. Cela étant dit, surconsommer des écrans, même sur ces comptes, même sur des contenus qui sont a priori pas négatifs, a des effets négatifs parce que ça prend beaucoup de temps sur d'autres activités.
Des courriels pour vous, Michel Desmurgés. Marie à Nice, quelles sont les applications de contrôle parental faciles à utiliser? Peut-on bloquer des sites ou des applis? Peut-on vérifier leur historique de navigation?
Alors, je ne suis pas un grand informaticien. Vous donnez des noms, je ne sais pas. Je sais qu'il y en a qui sont intégrés partout. Il y a des applications pour contrôler le temps qui fonctionnent assez bien. Le peu que j'ai pu lire sur le sujet, les applications de contrôle de contenu ne sont pas des applications qui fonctionnent extrêmement bien. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est important de cette question, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous mettez un smartphone ou une tablette ou un ordinateur dans la main d'un enfant, vous lui ouvrez toutes les bibliothèques et tous les savoirs de la planète. Mais vous lui ouvrez aussi en même temps tous les sex shops de la planète et tous les contenus.
Mais alors, comment on fait?
Comment vous dire? Il y a des outils de contrôle, il faut en causer avec eux, il faut mettre en place un certain nombre de règles. Après voilà, s'il a le smartphone dans la main, s'il a besoin d'un téléphone, est-ce qu'un gamin de 12 ans a besoin d'un smartphone? J'en sais rien. Si on est inquiet, on lui met un téléphone à touche qui lui permet pas d'avoir accès à Internet. Il faut savoir que si vous lui mettez ça dans la main, il ira sur ces sites. Il n'y a pas moyen de le contourner. Il ira. Alors il ira peut-être avec ses copains devant l'école, mais il ira beaucoup plus s'il y a accès comme ça. Alors c'est pareil, il y a une autre chose qui est important de savoir. Les écrans dans la chambre, c'est pareil. Si vous mettez des écrans dans la chambre, la consommation va être beaucoup plus importante. Et puis surtout, vous ne pourrez pas contrôler, entre guillemets, les contenus. Je pense qu'oui, il y a un effort de d'éducation à faire. Puis il y a surtout à se demander. Il y a cette fable du paria social qui nous explique que si les enfants n'ont pas ces smartphones-là, si on leur met pas ces outils, ils en jouent, hein, quand ils en veulent. Je vais être tout seul à l'école, personne va me parler, je vais être un paria, je vais être le pestiféré. Les études montrent qu'il y a entre 6 et 10% des enfants sur les études qui n'ont aucun accès à ces outils. Voilà, qui n'ont pas accès à ces outils récréatifs. Ces enfants vont pas plus mal que les autres, ils vont plutôt mieux. Je connais plein d'études qui montrent des effets négatifs à avoir ces outils. Je ne connais aucune étude, y compris chez l'ado, qui montre des effets négatifs à ne pas les avoir.
Courriel encore, il faut pas oublier que les jeunes voient leurs parents qui sont constamment sur leurs écrans. Ils reproduisent, les jeunes, ce comportement des parents qui parlent d'ailleurs de moins en moins à leurs enfants. Que pensez-vous de ce constat sur ce courriel qu'on a reçu et qui nous vient d'Orléans?
Alors quand on dit qu'il y a un effondrement des interactions verbales et intrafamiliales, ça vient des enfants quand ils sont, mais ça vient aussi des parents quand ils sont sur leurs écrans. Les facteurs les plus importants qui prédisent l'usage des enfants, c'est l'âge auquel vous les mettez. Si vous les mettez, plus vous les mettez à un âge précoce, et plus ils vont les utiliser après. Il y a aussi le fait qu'ils les aient dans la chambre, on en a parlé. Puis l'un facteur essentiel, c'est l'usage des parents. Plus les parents vont être des utilisateurs fervents de ces choses-là, plus les enfants vont les utiliser. Alors d'une part par mimétisme, mais aussi parce que plus les parents les utilisent et plus les parents vont se dire que vont avoir un avis positif, parce que les parents ont pas envie de se dire, ou souvent se disent pas, que s'ils les utilisent, ça a un impact négatif sur eux. Ce qu'il faut que les parents comprennent bien, c'est que c'est pas parce que ça a pas un impact négatif, et on peut en discuter, mais admettons que ça n'ait pas un impact négatif majeur sur le cerveau cristallisé, fini, terminé. Alors il y a encore de la plasticité, mais le cerveau de l'adulte, il est en place. Ça n'a pas la même chose sur un cerveau qui est en construction, qui est en train de se mettre en place, que sur un cerveau qui est déjà mis en place. Ce qui se passe chez l'adulte, ce qu'on peut ressentir nous en tant qu'adulte et l'usage qu'on en fait, c'est pas du tout les mêmes impacts que ça a chez un enfant et chez l'adolescent, qui sont des périodes de plasticité cérébrale absolument phénoménales.
À ce propos, on a en ligne avec nous Aurélie. Bonsoir Aurélie, vous êtes à Grenoble?
Oui, bonsoir, vous m'entendez bien?
Oui, ça va, c'est bien. Allez-y.
Très bien. Eh ben, je suis orthophoniste en fait, et effectivement, je voulais parler exactement de ce sujet-là. Les logiciels soi-disant éducatifs qui sont créés par des adultes le sont faits avec des adultes qui pensent avec un cerveau d'adulte. Or, un cerveau d'enfant, ça met 16 ans à construire une pensée logique construite, et ça a besoin, les enfants à tous les âges, de manipuler du réel. C'est pas parce que sur une tablette, ils vont prendre un objet et le déplacer avec deux doigts qu'ils vont avoir construit la notion de déplacement de l'objet, de permanence de l'objet, etc. Et que du coup, on a une idée que ça peut être éducatif, mais c'est pas possible en fait. Il y a que en manipulant du réel. L'écran, il devient un outil intéressant à partir de 16 ans, quand la pensée logique est complètement construite et que ça devient un outil pour remplacer des actions qu'on pourrait faire sinon avec notre tête, quoi, parce que la tête est finie d'être construite, on va dire.
Merci Aurélie d'avoir appelé le standard du téléphone sonne. Michel Desmurgés, vous partagez ce constat?
Je suis très content d'avoir entendu Aurélie. Il y a deux choses, il y en a 30 secondes. C'est que le constat qu'on trouve dans la littérature scientifique, ce qui est intéressant, c'est que pendant longtemps on nous a dit bof, pas vraiment et tout, on sait pas. Et ce constat, il commence à rejoindre d'assez près tous les constats que font les professionnels de l'enfance. Alors les orthophonistes, oui, les enseignants, les parents qui ont des enfants voient bien qu'il y a un problème. Et de plus en plus, ça commence à s'ancrer dans le réel. Après, il y a une deuxième chose qui est importante pour revenir à la question de Clément au début sur le cerveau. Encore une fois, le cerveau, il va réagir beaucoup plus dans le réel, dans l'interaction, notamment dans l'interaction avec les humains. Il y a une très belle étude qui a été faite par Ferrari, qui travaille sur les neurones miroirs. Vous savez, c'est ces neurones. Si je vous fais un sourire, il y a des neurones qui réagissent dans mon cerveau. Et si vous me faites un sourire, les neurones qui vont réagir dans le mien, c'est les mêmes que ceux qui me font sourire moi. Et donc, au bout d'un moment, il en a eu marre, le garçon, de faire des sourires à ses singes, notamment, pour voir comment ça réagissait. Et donc, il a fait une vidéo de lui en train de sourire à l'animal. Et il s'est aperçu que les neurones qui réagissaient de façon extrêmement intense quand lui faisait un sourire ou interagissait avec l'animal, ces neurones ne réagissaient plus ou beaucoup moins quand c'était lui-même présenté en vidéo. Et il y a des dizaines d'études qui montrent, on appelle ça le déficit vidéo, il y a des dizaines d'études qui montrent que vraiment, vraiment, il y a besoin d'humain, il y a besoin d'interaction, il y a besoin de réel. Et comme disait Aurélie, il y a besoin de manipuler. Il a besoin de se cogner le réel, il a besoin de manipuler. Vous voyez, déplacer un puzzle avec deux doigts pour le mettre dans un coin, c'est pas la même chose que de prendre les puzzles avec les doigts, de les mettre en place, de les rentrer, etc. Et ces choses-là, elles sont extrêmement importantes. Par exemple, on a parlé beaucoup du langage. Je suis bavard, hein, je sais.
Non, allez-y.
Non, on peut parler. Il y a une étude, par exemple, qui montre qu'a suivi des enfants de la maternelle jusqu'à l'école primaire. Et on s'aperçoit qu'une heure d'écran chez ces enfants, quand ils ont 29 mois, ça diminue de 40%. Ça altère de 40% leur résultat. Une fois que vous avez contrôlé pour tous les autres variables possibles, ça altère de 40% leur résultat en mathématiques. Et les gens ont trouvé ça bizarre. C'est-à-dire qu'ils ont des résultats qui sont 40% inférieurs à ceux qui n'ont pas été exposés. Mais ça se comprend assez facilement parce que ces choses-là, ça vient pas de n'importe où. L'enfant, quand il manipule, il groupe, il série, il met ensemble, il organise ces choses-là. Et tout ça, la pensée mathématique, elle vient aussi de ces manipulations-là directement sur le réel.
Voilà, le réel, vous en parlez dans votre livre, vous citez cet exemple. Vous avez assisté un jour à une représentation, un opéra que vous avez vu sur écran et ça vous a profondément ennuyé alors que l'opéra que l'on voit, que l'on vit dans une salle à Garnier, à Bastille, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut voir sur un écran d'ordinateur, même si c'est retransmis en direct.
Ah oui, non, c'est pas du tout la même chose. Moi, je
peux le réel.
Ah oui, moi, on m'a emmené à l'opéra un jour, mais ça m'a subjugué, quoi. Donc, je me suis dit, tiens, c'est génial, je vais, puis j'ai regardé, parce que la télé, à l'époque, c'était France 3 qui passait ça. Mais c'est une catastrophe. Donc, il y a vraiment, on a une émotion, on interagit. Notre cerveau réagit beaucoup plus intensément au réel qu'il ne réagit.
Pierre est en Guadeloupe et nous écoute. Bonsoir Pierre, vous êtes le bienvenu sur l'antenne. Allez-y, on écoute votre question, votre témoignage.
Bonsoir à vous tous, merci d'exister. Voilà, moi j'ai un témoignage d'ancien instit. J'ai assisté à l'effondrement faramineux du calcul mental suite à la mise en place des calculettes en CE1, CE2. Or, ça consistait à greffer une intelligence artificielle que l'enfant considère comme supérieur à la sienne et donc à l'empêcher de faire travailler la sienne. Si on ne peut pas greffer une intelligence, quelle qu'elle soit, à une intelligence qui n'est pas formée. Sinon, on s'expose à devenir un servant servile d'une quelconque machine, d'un quelconque système, etc. On en est à l'heure de la rapidité du G5, de la 5G, pardon, mmh. le machin rapide. Mais on ne saura plus allumer d'allumettes. Nos enfants sont d'une dextérité inégalable avec 2 pouces sur leur écran. Mais est-ce qu'ils vont savoir allumer un briquet ou tourner un écrou de 10 un jour? Enfin, je ne sais pas, ou couper une planche. Ils sont très habiles avec 2 pouces. Voilà. Moi, je suis terrifié par l'idée qu'on greffe et qu'on présente comme une modernité, un pas vers le progrès, des intelligences sous forme de tablettes, d'ordinateurs, avant un certain âge, où l'intelligence a su être formée et se former par l'éducation, l'enseignement, etc.
Sur ce dossier, merci Pierre d'avoir témoigné sur ce dossier de l'éducation et du numérique. Marc est en ligne avec nous, il veut témoigner. Si j'ai bien compris, il est délégué académique du numérique. Bonsoir Marc.
Bonsoir.
Vous êtes délégué académique du numérique, c'est cela ?
Oui, c'est ça. Dans une académie sur Strasbourg.
Oui, alors
ce que je fais, c'est pas forcément très intéressant, mais je souhaitais juste apporter un peu le contrepoint sur ce qui se dit de part et d'autre, à la fois par votre intervenant et puis quelques-uns des auditeurs. J'ai l'impression qu'on a souvent tendance à faire l'amalgame entre les usages du numérique et les usages néfastes du numérique. Certes, je rejoins complètement votre intervenant quand il dit que l'enfant réagit mieux avec le réel. Moi, j'ai enseigné des sciences expérimentales et jamais rien ne remplacera l'expérience physique, l'expérience chimique, l'expérience en SVT, etc. Néanmoins, les élèves que nous avons en classe, ce sont nos futurs citoyens que nous préparons à vivre dans une société numérique. C'est ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Et je pense que l'école a un rôle extrêmement important à jouer dans justement l'apprentissage de ces outils numériques qui sont aussi une part d'intelligence à acquérir, qui sont aussi un certain nombre de compétences à acquérir. Nous apprenons dans les écoles, même si on déploie des ordinateurs, contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure par un de vos auditeurs, on ne fait pas faire 30 heures de numérique aux élèves. Par contre, le numérique doit être au service des apprentissages. Il faut savoir de temps en temps lire aussi sur un écran. C'est une compétence qui n'est pas la même que celle de lire dans un livre. Et donc je pense que l'école aujourd'hui doit à la fois faire travailler l'une et l'autre des compétences. Ce serait dommage de les opposer quand c'est souvent le cas. Il faut beaucoup plus, je pense, les penser en complémentarité l'une et l'autre. Et nos enfants vont avoir à faire face dans le monde qui les attend à cette nécessité d'avoir une double intelligence, à la fois sur le matériel et aussi sur le numérique qui va les entourer et qui les entoure déjà.
Merci Marc, délégué académique du numérique, Michel Desmurger.
Alors, je crois que si je peux me permettre, qu'il y a une ambiguïté. Qu'il faille enseigner un certain nombre d'usages, d'outils numériques aux enfants, qu'il faille leur apprendre à utiliser un ordinateur, à utiliser Word, à utiliser un traitement de texte, à utiliser, je sais pas, un logiciel pour faire des calculs mathématiques, il n'y a pas de problème là-dessus. On peut en discuter. Qu'est-ce qu'il faut leur apprendre, comment et à partir de quel âge? Est-ce qu'il faut, par exemple, comme c'est dans les programmes, leur apprendre à utiliser une caméra numérique à la maternelle? J'en suis pas très sûr. Mais on peut discuter. Qu'est-ce qu'il faut apprendre des outils numériques eux-mêmes? Mais on parle pas de ça, là. On parle pas de est-ce qu'il faut leur apprendre à utiliser un traitement de texte ou à être à l'aise avec les outils numériques. On parle de substituer le numérique à l'enseignant. On parle d'enlever du temps d'enseignant et de remplacer l'enseignant pour des matières comme les mathématiques, comme le français, comme les langues, comme l'anglais. On parle de remplacer du temps humain par du temps numérique. Alors, que ça soit bien de leur apprendre à utiliser un traitement de texte ou je ne sais quoi, il n'y a pas de problème. Que ça soit bien après qu'on parte de ce constat-là pour nous dire que le numérique à l'école, c'est bien. Sans doute que ça, c'est bien. Qu'il faille leur apprendre à coder, peut-être, sans doute, je sais pas.
Ça va faire partie de l'avenir professionnel des jeunes, le numérique. Donc c'est un peu normal. Je me fais l'avocat du diable.
Non,
c'est un peu normal
que
le numérique soit présent dans l'éducation.
Il faut discuter de ce qu'on leur apprend du numérique. Qu'est-ce qu'on leur apprend de ces outils-là? Par contre, encore une fois, c'est pas leur apprendre à utiliser un ordinateur et utiliser un ordinateur pour remplacer l'enseignant de maths, c'est pas tout à fait la même chose. Si on se limite simplement à leur apprendre à utiliser un ordinateur, à utiliser des fonctionnalités, à leur apprendre comment ça marche, mais grand Dieu, il n'y aura pas de problème. Maintenant, le problème, il commence comme parce que c'est bien ça le cœur du débat. Le problème, il commence quand vous remplacez l'intelligence humaine par une intelligence logicielle pour des apprentissages comme les mathématiques, le français et autres. Donc voilà. Donc il y a deux choses dans cette chose-là qu'il faut pas amalgamer. Il y a qu'est-ce qu'il faut apprendre du numérique et des outils et est-ce qu'on peut remplacer l'enseignant pour d'autres matières qui ne sont pas numériques par du numérique. Il y a cette deuxième question. La réponse est quand même pas très positive.
Un courriel d'une enseignante depuis 33 ans. Elle nous écrit sur le site de l'émission. Chaque année, je demande aux élèves le temps qu'ils passent sur les écrans. Résultat, ceux qui y passent beaucoup de temps sont toujours les enfants les plus en difficulté scolaire. Certains y passent plus de 35 heures par semaine.
Oui. Sur les difficultés scolaires, j'ai envie de dire que c'est la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire que si vous touchez au langage, si vous touchez à la concentration, si vous touchez à la mémorisation, si vous touchez au temps qui est consacré à faire des devoirs, etc., bah évidemment vous avez un impact sur la réussite scolaire et les écrans ont un impact lourd sur la réussite scolaire. Il y a même des expériences qui sont très expériences. Il y en a une qui est rigolote. Ils ont pris un grand groupe d'enfants qu'ils ont scindé en deux et ils leur ont dit voilà, on va étudier le développement et on peut pas vous rémunérer mais on va vous faire un cadeau. C'est des enfants qui ont aucune difficulté scolaire, qui ont aucun problème scolaire, qui sont pris dans des milieux plutôt favorisés et on leur donne une console de jeux, soit au début de l'étude avec des jeux, soit à la fin de l'étude. Et on s'aperçoit qu'en 4 mois, vous passez de aucun enfant avec des difficultés scolaires à une quinzaine de pourcents d'enfants en double aveugle par les enseignants qui répertorient des problèmes de discipline, etc. Vous apercevez qu'il y a un décrochage de 5% sur la moyenne de ces enfants parce que le temps qu'ils consacraient à leurs devoirs a diminué par deux, ça touche le sommeil. Donc, la grande victime, l'une des grandes victimes de ces usages des écrans récréatifs, c'est effectivement la réussite scolaire.
Et Michel Desmurger, est-ce que vous n'êtes pas totalement effondré en pensant à l'avenir, au futur? Vous voyez bien les progrès fulgurants du numérique ces 10 dernières années, entre 2010 et 2019. On va en parler d'ailleurs demain soir au téléphone sonne. Ces progrès vont continuer, le numérique, les ordinateurs, les tablettes de plus en plus efficaces vont se développer. Votre combat, il n'est pas perdu d'avance?
Il y a des chances, mais je sais pas. Encore une fois, c'est pas parce que l'intelligence artificielle va se développer. Moi, j'ai de l'intelligence artificielle. Quand voilà, ils ont développé des logiciels pour repérer les tumeurs qui sur tumeurs cérébrales qui font un peu mieux que l'œil humain. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Voilà, on peut en réfléchir. Encore une fois, plus l'écran devient intelligent, plus on devient bête aussi. Donc il va falloir faire un traitement de ce qu'on a à apprendre nous ou pas. Ce qui me gêne, c'est pas que les écrans se développent, c'est pas que le numérique dans les domaines où il est efficacité soit utilisé.
Qu'on en fasse une utilisation intelligente, mesurée, contrôlée.
Ce qui m'ennuie, c'est que des gamins de 3 ans, ouais, c'est la moyenne, passent 3 heures par jour devant des vidéos, des dessins animés, des trucs comme ça, au détriment brutal de leur développement. Je suis pas effondré, je suis en colère.
Allez-y, c'est formidable la colère, c'est bien.
Non, je vraiment ce qu'on est en train de faire à ces gamins-là, c'est pas digne quoi, c'est pas possible de voilà, on sacrifie tout ce qui les fait humains. J'ai l'impression que si je devais prendre un exemple, c'est un peu on est en train de construire une génération de gamins du meilleur des mondes, sauf qu'on les a pas triés génétiquement, on les traite de façon environnementale. Voilà, on les... Alors, ils sont...
Donc, c'est un avertissement que vous lancez aux parents. Faites votre travail, soyez plus stricts, surveillez cette utilisation
mais
du
les
numérique.
Parents,
les
bah oui, les parents, ils aiment
ils
leur
sont
gosse,
en première ligne.
Sauf que les parents, on leur dit depuis tellement d'années, c'est vachement bien, ces trucs numériques, c'est super bien et tout. Voilà, je pense que si les parents, ils avaient une information un peu fiable, les parents, ils aiment leur gosse. Voilà, quand on leur explique, je pense que ça va bien et c'est le but. Oui, c'est aussi la responsabilité des parents, mais cette responsabilité, ou en tout cas, c'est de la liberté des parents, et cette liberté, on l'exerce mieux quand on est un peu au courant des choses. Vous savez, je parle des gamins, mais il y a une étude de la Commission européenne qui est absolument réfrigérante où on nous dit nos gamins finalement ils savent autrement, ils sont extraordinaires. Alors ils savent pas autrement en informatique parce que le fait d'utiliser ces outils-là qui sont des outils absolument triviaux, Facebook, etc., ça vous donne aucune compétence d'informaticien. C'est comme de croire que si vous allez manger tous les jours chez Bocuse, ça fait de vous un super cuisinier. La Commission européenne a listé dans les problèmes de la numérisation du système scolaire, elle a listé la faible compétence informatique de ces gamins-là. Et il y a un deuxième truc, vraiment, 3 secondes, c'est on nous dit, ces enfants, ils ont du concret, il y a eu tout un pataquès médiatique, et quand on va voir l'étude, on s'aperçoit que ces gamins-là, cette étude, ce qu'elle teste, est-ce qu'ils sont capables de régler un lecteur MP3, est-ce qu'ils sont capables de commander un billet de train sur Internet, est-ce qu'ils sont capables de régler un plan de table d'anniversaire pour leurs copains, et on s'aperçoit, ils sont capables. Mais ça, c'est pas des compétences qui font des citoyens, c'est des compétences qui font des bons gamins, des bons pouces-boutons un peu sympas. On peut pas se gausser de ça, et puis détruire le langage, détruire la concentration, détruire tout ce qui fait de ces gamins des citoyens, tout ce qui va leur permettre de penser.
Christophe patiente depuis au moins 10 minutes. Bonsoir Christophe, vous êtes à Caen?
Oui, bonsoir.
Allez-y, on a plus tellement de temps, soyez pas trop long.
Non, ça va être court. Je vais me faire aussi un peu l'avocat du diable. Je me rappelle qu'à la fin des années 80, à la fin des années 70, quand on a eu notre première télévision à la maison, mes parents et les institutrices ont un peu dit la même chose en disant oui, ils vont être tout le temps devant les écrans, ils vont garder plein d'émissions de télévision, etc. Ils vont plus du tout travailler, plus lire, etc. Je me pose la question, est-ce que c'est pas un peu la peur du futur? Parce que bon, aujourd'hui, je crois que je suis bien construit et tous les enfants des générations des années 60 sont assez bien construits dans l'ensemble, quoi. Voilà.
Michel Desmurgés.
Oui, sauf que dans les années 60, la télévision, alors il y a plein d'études qui datent des années 60 qui montrent que ça a des effets négatifs. Cela étant dit, on était à quoi? Une demi-heure par jour, 3/4 d'heure, on regardait le Club Dorothée le mercredi après-midi. C'était pas le matin, du matin au soir, 24h/24. On était peut-être à 1 heure par jour en moyenne, grand max. Maintenant, on est à 6h, 6h30 sur les ados, 3h pour les gamins. Donc, il y a une question d'usage. Et ce qu'il faudrait rappeler, c'est que, certes, il y a des gens qui ont fait des mises en garde, mais on nous a aussi, au moment de la télévision, au moment de la radio, au moment du cinéma, on a eu toute cette esbrouffe sur c'est super, ça va développer l'intelligence, c'est bon. On nous a fait la même chose sur la télévision. Edison disait que le cinéma allait supprimer les enseignants parce que il y aurait qu'un enseignant qui serait sur un écran. Et puis pour la télévision, Johnson, qui a fait la guerre à la pauvreté aux États-Unis, expliquait que la télévision allait venir à bout, elle toute seule, de la pauvreté avec ses programmes éducatifs. On a vu ce qu'il en était. Donc oui, il y a eu des mises en garde qui ont été justifiées après et validées. Et puis oui, il y a eu des enthousiasmes qui, eux, ont été un peu douchés, au même titre que les enthousiasmes numériques qui sont actuellement quand même passablement douchés. Et par les études et par les ressentis des professionnels de l'enfance qu'on a cités, les enseignants, les orthophonistes et puis bien sûr les parents.
Michel Desmurgés, dernier appel, Irène à Dax. Irène, c'est à vous.
Oui, bonsoir. Merci pour l'émission. C'est le papa de mon fils qui m'a dit d'écouter. Donc, j'écoute avec grand plaisir et très attentivement.
Il nous reste 50 secondes. Ne soyez pas trop long, Irène. Votre témoignage. Allez-y.
J'ai un enfant de 18 mois. Donc, je lui fais regarder plusieurs demi-heures par semaine en dansant avec lui des comptines en anglais sur les couleurs, les numéros et tout pour apprendre les numbers, les couleurs. Ouais. Et je voulais savoir si c'était vraiment négatif aussi.
Michel Dimurger.
Alors la réponse est, il vaut mieux que vous dansiez avec lui, que vous lui appreniez les comptines en anglais et que vous lui montriez sur des objets réels le yellow. Des études montrent que c'est mieux que rien, mais c'est moins bien qu'un adulte, qu'un humain tout seul. C'est-à-dire que le gamin qui vous regarde Dora et qui dit yellow, voilà, ça va lui prendre beaucoup plus de temps et ça va lui prendre énormément plus d'investissement qu'un gamin où on lui montre yellow, il l'apprend tout seul. Donc si vous pouvez le faire tout seul, vous n'avez pas besoin du support numérique.
Et pour mieux en savoir plus, Michel Dimurger, il est 20h. Déjà, je rappelle, hein, ce livre, La fabrique du crétin digital, c'est paru aux éditions du Seuil, Les dangers des écrans pour nos enfants. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu comme cela en direct aux auditeurs et aux courriels aussi qu'on a reçus sur le site.
Merci à vous pour l'invitation.